Attention pour le décompte final.
3, 2, 1, 0.
Le vulgarisateur de l'espace.
Décollage.
L'appel du cosmos de Jules Verne à Sputnik 1.
Au commencement, il n'était qu'une poignée d'écrivains et de scientifiques géniaux. Jules Verne et Herbert George Wells l'imaginaient dans leurs livres. Konstantin Tsiolkovsky en était persuadé. La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau. Avec ces hommes, l'exploration de l'espace avait trouvé sa genèse. Vous connaissez probablement cette citation de Tsiolkovsky, un scientifique russe du début du XXe siècle, aujourd'hui considéré comme le père de la cosmonautique moderne. En 1903, il publie le premier traité de fuséologie, l'exploration de l'espace cosmique par des engins à réaction. Il y explique comment se libérer de l'attraction terrestre pour atteindre les portes de l'espace. Il imagine, entre autres, les fusées à étages comme peut l'être aujourd'hui Ariane 5, le lanceur européen, préfigure les stations spatiales et l'utilisation de combustibles liquides, oxygène, hydrogène, pour la partie propulsion. Quelques années plus tard, vers 1890, un ingénieur et physicien nommé Robert Goddard passe à la pratique. Il pense et conçoit les premières fusées à propulsion liquide. Il dépose des brevets, des analyses purement théoriques en 1919, publie aussi des articles, on le prend pour un fou. Il semble seulement lui manquer la connaissance enseignée tous les jours au lycée, critique le New York Times au sujet des théories du professeur Goddard. Sa première fusée s'élève néanmoins vers le ciel avec élégance et stabilité le 19 avril 1932. Hermann Oberth, éveillé par les romans de Jules Verne, rédige pour son doctorat une thèse intitulée « Des fusées dans l'espace interplanétaire ». En 1935, il réussit le lancement d'une fusée à combustible liquide et rejoint ensuite Peenemünde pour travailler sur les missiles balistiques de l'armée nazie. Il travaille aux côtés de jeunes ingénieurs allemands, Werner von Braun est le plus brillant d'entre eux. Le 3 octobre 1942, il réussit le tir de la première fusée militaire, baptisée V2, V pour vengeance, elle franchit pour la première fois la barrière de l'espace, autour des 80 km d'altitude. À la chute d'Hitler, les armées alliées mettent la main sur les stocks de V2 ainsi que sur une précieuse documentation technique. L'objectif est clair, il faut rattraper le retard vis-à-vis de l'Allemagne dans le domaine du spatial. Les États-Unis exfiltrent von Braun pour le faire travailler à leur compte. Plus tard, c'est sur ses épaules que reposera la lourde mission d'envoyer des hommes sur la Lune dans le cadre du programme spatial Apollo. De leur côté, France et Grande-Bretagne récupèrent aussi des documents et pièces de V2. À l'Est, rappelé très affaibli après avoir passé 6 ans au goulag, le soviétique Sergueï Korolev fonde le programme spatial communiste. L'objectif est alors essentiellement militaire, créer des missiles balistiques de longue portée capables de transporter des têtes nucléaires d'un continent à l'autre est leur principale occupation. Depuis 1947, la guerre froide fait rage et avec elle, la course à l'espace. La dissuasion nucléaire est un bon prétexte, elle est d'ailleurs bien réelle, mais tous ces ingénieurs de par le monde n'oublient pas l'esprit de Jules Verne et des autres visionnaires. Les fusées à usage militaire d'aujourd'hui seront aussi capables d'emmener l'homme dans l'espace demain. Le 24 février 1949, une caméra est emportée à plus de 400 km au-dessus de la Floride par une fusée et donne le premier aperçu de la rotondité de la Terre. En cette belle journée de 1949, la joie du rêve réalisé est bien là, l'espoir de l'exploration du cosmos lointain dans un futur proche aussi. L'homme dans l'espace, la Lune, les stations spatiales, les objectifs ne manquent pas. Mais les obstacles techniques à surmonter sont nombreux. Par exemple, un objet lancé en l'air retombe sur le sol, peu importe la force du bras qui le jette. La force de gravité terrestre le ramène au sol. Pour placer ne serait-ce qu'un satellite artificiel sans qu'il retombe, il faut une fusée puissante capable d'atteindre une vitesse au moins égale à 28 000 km/h. En comparaison, la voiture la plus rapide au monde roule à près de 400 km/h, pas plus. Cette vitesse, C'est la vitesse de stabilisation, dite aussi première vitesse cosmique. Si la fusée porteuse augmente encore sa vitesse, son orbite s'ouvre et sort du puits gravitationnel terrestre. La vitesse minimale au-dessus de laquelle un projectile échappe définitivement à la gravité terrestre est la vitesse de libération, dite aussi seconde vitesse cosmique. Ce premier cap sera franchi en 1957 du côté soviétique par Sputnik 1. Dans les steppes du Kazakhstan près de Baïkonour, en cette nuit calme d'octobre, le bip-bip caractéristique de l'émetteur radio du petit satellite répond. L'ère de la conquête spatiale était bien là.
C'était le vulgarisateur de l'espace, une chronique de Jean-François Bourguin, réalisation Honorine Campagne.
Attention pour le décompte final.
4, 3, 2, 1, 0.